Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Gérard Noiriel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est un moment rare parce que vous vous exprimez peu et on entend peu les historiens. Je rappelle que vous êtes historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous veillez avec d'autres historiens à ce que les hommes politiques, entre autres, ne manipulent pas l'histoire. C'est ce qui m'intéresse. Je rappelle aussi que vous avez imaginé le musée de l'histoire de l'immigration à la suite de votre livre « Creuset français ». Merci d'être avec nous, Gérard Noiriel. Gérard Noiriel, je vous ai invité ce matin parce que j'ai une nouvelle fois, entendu Éric Zemmour, c'était sur Europe 1, c'était dimanche, affirmer que le régime de Pétain avait protégé les Juifs français et donné les Juifs étrangers aux Allemands. Je souligne le mot « donner ». Je remarque l'utilisation du mot « donner ». Donner des hommes, des femmes, des enfants pour participer à l'extermination d'une race. Alors, oui ou non, est-ce que le régime de Pétain a protégé les Juifs français ?
Écoutez, c'est les historiens qui spécialisent cette question-là ont déjà invalidé, vous savez, déjà cette polémique il y a 2 ans, oui. Démontré combien c'était fallacieux de présenter les choses comme ça, puisque c'est finalement la thèse qui était celle des pétainistes après la guerre, vous savez, de dire que finalement, grâce à Pétain, on avait sauvé des Juifs français, voilà. Donc, oui. Il y a aussi quelque chose qui est scandaleux, c'est même sur le même plan, j'ai lu ça aussi, c'est Éric Zemmour, les pratiques de renvoi de travailleurs immigrés qui avaient été faites dans les années 30 avec ce qui s'est passé sous Vichy à l'égard des Juifs. C'est minimiser, voire nier l'antisémitisme qui était quand même la base du régime de Vichy. Donc tout ça, c'est absolument scandaleux. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'on revienne là-dessus inlassablement. Je veux dire, les historiens ont démontré de toutes les manières possibles déjà combien c'était fallacieux et scandaleux d'un point de vue civique aussi, politique. Oui, hein. Il n'y a pas que la vérité historique, d'ailleurs, tout ça, vous comprenez. Oui. Donc, et qu'on revienne là-dessus inlassablement, c'est ça qui me pose problème.
Si que vous... Zemmour revienne là-dessus inlassablement.
Oui.
Mais on va essayer de comprendre pourquoi il revient là-dessus inlassablement. Oui, oui. Je rappelle que le régime de Pétain, fait que tous ceux qui ont voulu absoudre les crimes de Pétain, nous disent, mais Pétain, c'était le bouclier. Il y avait le glaive de Gaulle et le bouclier Pétain. Oui, oui, oui. En fait, ils étaient complices, quoi, en quelque sorte.
De Gaulle, hein, Gaulle et Pétain auraient joué un jeu avec une partition où ils se seraient entendus, etc. Bon, enfin, qu'est-ce que vous voulez, c'est absolument absurde. Il y a de multiples travaux historiques qui ont invalidé tout cela. Donc
choses soient claires, c'est bien l'administration française et la police française qui ont traqué les Juifs en France.
C'est ça, voilà.
Avant de les envoyer en camp.
Voilà, c'est ça.
À Drancy, si les Juifs se sont retrouvés à Drancy, c'est bien parce que la police française est allée les chercher.
Tout à fait, oui. Mais si vous voulez, le fait de que Zemmour reviennent là-dessus, si vous voulez, c'est un peu dans sa logique de faire de buzz le scoop, vous voyez, en prenant des personnages qui sont condamnables, qui ont été condamnés par l'histoire, de façon à se positionner, vous voyez, comme celui qui tient un discours, je dirais, contraire aux bien-pensants, etc., etc.
Oui, la France n'est pas coupable, c'est l'Allemagne qui l'est.
Oui, oui, voilà, bon, voilà, c'est ça. C'est... Oui, parce que, si vous voulez, c'est une structure dans son discours nationaliste, c'est-à-dire qu'il va prendre toute une série de personnages comme ça, qui se sont comporte de l'extrême droite, hein, parce que c'est une tradition. Zemmour s'inscrit dans une tradition, c'est ce que j'avais montré dans mon livre Le Venin dans la Plume, hein, publié il y a 2 ans, qui vise justement toujours à exalter, à défendre, à excuser tous les crimes qui ont pu être commis au nom de la nation française en les relativisant. Et évidemment, ça a des effets politiques. D'ailleurs, Zemmour le dit lui-même dans une des émissions qu'il a faites, c'est de dire qu'en gros, même par rapport à Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, lui, il a un vrai programme parce qu'il fait un bon diagnostic historique. L'histoire a une place énorme dans son discours. Il dit, moi, je fais le bon diagnostic historique, donc j'aurai un programme politique qui sera crédible pour les Français.
Oui, toujours les mêmes propos, répétés, sciemment répétés, comme une obsession. D'ailleurs, quand il est venu ici, il m'a parlé du mot obsédéré. Oui, obsédéré, c'est occuper l'espace. Hein. Ça veut dire, en latin, hein, je le rappelle, donc il occupe l'espace.
Occupe espace. Et il profite d'un système où, justement, aujourd'hui, eh bien, il faut faire le buzz, il faut faire scandale, parce que ça suscite de l'audience. Vous avez les réseaux sociaux qui répercutent ça. Et donc, quand vous êtes comme moi, un historien, un chercheur, oui, donc c'est mon métier, je veux dire, vous savez, une des lois fondamentales de la démocratie, fixée par la Troisième République, c'est la séparation des fonctions, la spécialisation des fonctions. Journaliste, c'est un métier. Hein. Politicien, c'est un métier. Chercheur aussi, c'est un métier. C'est un métier qu'on acquiert à force du temps, etc., d'expérience. Oui. Donc, c'est compliqué. Donc, si vous voulez, Zemmour, lui, il s'embarrasse pas de tout ça. C'est des phrases énoncées comme ça, à l'emporte-pièce, pour faire le buzz. Et on nous demande après de les critiquer. Mais si vous voulez, c'est totalement en dehors de nos recherches. Vous comprenez?
Il remet en cause votre travail d'historien. Il remet en cause les historiens. Oui. Il essaie d'affirmer sa vérité historique. Rappelons qu'il n'est pas le premier à faire ça. Rappelez-nous cette tradition d'extrême droite, Gérard Noiriel.
Oui, c'est ça. Il y a une tradition qui remonte justement à la fin du 19e siècle, quand, disons, l'État-nation républicain s'est construit. La liberté de la presse, c'est aussi lié. C'est une exploitation malsaine de la liberté de la presse. Hein, parce que, pour moi, l'un des premiers qui a été dans cette logique-là, c'est Édouard Drumont.
Alors rappelez-nous qui était Édouard Drumont.
Drumont, c'est le journaliste qui a popularisé, largement diffusé et milité, même politiquement, pour l'antisémitisme en France. Hein. Oui. Il a écrit un pamphlet odieux qui s'appelle La France juive, qui a été publié en 1886, 5 ans après la loi sur la liberté de la presse, qui au début n'intéressait personne. Mais Drumont, il était capable déjà de faire le buzz à sa manière. Il insultait les gens, du coup ça donnait des duels sur le... À l'époque, c'était pas à la télévision, bien sûr. Oui. C'était au Bois de Vincennes, au Bois de Boulogne. Et c'est comme ça que petit à petit, ce gars-là s'est créé sa réputation. Donc, il y a, vous voyez, une tradition qu'on retrouve après dans les années 30, alors là, encore décuplée, beaucoup focalisée sur l'antisémitisme à l'époque. Oui. Hein, c'est lié, oui. C'est un nationalisme articulé sur l'antisémitisme qui vise et qui a toujours une dimension anti-intellectualiste. Ça, c'est une constante. Parce qu'évidemment, quand vous avez des gens qui disent des horreurs comme ça, ben les spécialistes ils répondent. Et pour invalider les spécialistes, il faut les insulter. Moi-même, je suis insulté par Zemmour dans son dernier bouquin. Oui, exactement. En raison de mes travaux, 30 ans de travail sur l'histoire de l'immigration. Oui. Vous comprenez? Ben évidemment, si on vous insulte, c'est pas un débat. C'est une polémique. Vous êtes insulté, vous êtes dans
c'est
un
registre. C'est la raison pour laquelle vous exprimez peu et vous réagissez peu. Oui. Gérard Noiriel, on entend peu les historiens répondre à Zemmour.
Parce que si vous voulez, ce qu'il raconte soit sur l'immigration, sur Vichy, etc., ça a été invalidé, contesté, preuve à l'appui depuis des années.
On a eu les accès aux archives allemandes.
Mais oui,
on n'a pas encore les archives françaises, malheureusement. Oui. D'ailleurs, ça pose problème, ça.
Oui, ben voilà, il y a tout un jeu. Oui. Alors là, il y a un jeu interne à la recherche historique, parce que justement, un véritable historien, il n'affirme rien sans preuve. Ben, les évidemment. Preuves, elles sont dans les archives. Je croyais que Zemmour a déjà été une fois dans sa vie aux archives. Jamais. Donc, si vous voulez, on joue pas dans la même rue, si vous voulez, on parle pas le même langage. Donc, c'est ça. Et moi, je pense que c'est très important pour les auditeurs qui nous écoutent.
Les téléspectateurs,
de défendre aussi les principes de base de notre démocratie. Parce que ce que montre l'histoire aussi, c'est où on va avec des discours comme cela. Vous comprenez? On peut fasciner comme ça une certaine fraction de Drumont a été, il a fait de la politique, il a créé un parti antisémite, il a été élu lui-même député, mais ça n'a pas duré, il n'a pas dépassé ce stade. Là où il y a un changement, c'est aussi dans la structure de notre démocratie. Aujourd'hui, vous avez des gens comme Éric Zemmour, qui peuvent être candidats à la fonction suprême.
Oui.
Ça n'avait jamais existé auparavant dans notre République. Il y avait une séparation entre les partis politiques. La politique, c'était l'affaire des partis. Oui. Là, on voit comment vous avez des gens qui se prétendent omniscients parce que il est à la fois journaliste, écrivain, il fait la leçon aux politiciens, aux historiens, aux sociologues, etc. Oui. Mais si vous voulez, tout ça, c'est du vent, c'est complètement superficiel.
Oui.
Je veux dire, confronté aux réalités de la vie politique. Moi, je suis en dehors du champ politique, mais c'est compliqué, la vie politique.
Bien sûr.
Vous avez des tas de contradictions, des tas de choses, des tas de rapports de force qui se créent. Vous croyez que vous allez résoudre ça à un coup de baguette
est-ce
magique
que, est-ce que vous pensez que c'est un homme dangereux?
Je pense que j'évite toujours aussi de dramatiser les choses. Je pense qu'on n'est pas dans un contexte comparable à celui des années 30. On n'est pas au bord d'une guerre mondiale.
Oui.
Mais c'est dangereux au sens où ça, je dirais popularise, vous voyez, un certain nombre d'idées qui sont qui divisent les Français. Voilà, vous voyez.
C'est l'objectif. Voilà,
c'est l'objectif, oui, de mettre les Français les uns contre les autres. Oui. C'est ça qui est dangereux, parce que on se plaint de la montée de la violence, etc. Mais avec des discours de haine comme cela, on ne peut que l'aggraver. On ne va pas aller vers des solutions, je dirais, du vivre ensemble, de la réalité de la France telle qu'elle est aujourd'hui. Vous comprenez ? C'est là qu'il y a un risque.
Et la théorie du grand remplacement. Je voudrais y revenir parce que vous connaissez mieux que personne l'histoire de l'immigration, l'histoire française de l'immigration. Cette théorie a déjà été utilisée à des fins politiques avant Zemmour. Oui. Grand remplacement, bon, pour les Juifs.
Oui, hein, voilà.
Évidemment,
oui,
hein, oui. C'était les Juifs. Drubon, c'était quoi ? C'était l'élite juive.
Voilà,
les Juifs des riches.
Voilà, c'est le grand. Chez Drubon, oui. C'est le grand remplacement par en haut.
Oui.
Ils sont pas nombreux, mais ils colonisent tout. Les médias, l'économie, Rothschild. Oui. Alors, c'est le stéréotype Rothschild. Tous les Juifs, c'est des Rothschild, etc. Vous voyez? Donc, c'est dans cette logique qu'il y a une généralisation. La base du racisme, c'est ça. Hein, oui. On prend un fait divers, on prend un truc qui s'est passé, que tout le monde connaît, et on généralise à toute une communauté qu'on montre du doigt. Oui. C'est ça qui se passe aujourd'hui, notamment avec les musulmans. Et donc, là, il y a une logique qui se répète et qui est politiquement dangereuse.
Alors, c'est ce qui se passe avec les musulmans, mais ça s'est passé aux États-Unis avec les hispaniques.
Voilà, voilà, c'est hein? Trump, enfin, on voit
c'est
le
Trump
profil.
Avec...
Voilà,
mais bien
donc,
sûr.
C'est la logique du grand remplacement, et donc nous, c'est toujours le « eux » et « nous hein. ». Nous, oui. Les natifs, nous, les vrais Français. D'ailleurs, oui. Il ose dire dans les bouquins que la France n'est pas un pays d'immigration, un vieux pays d'immigration. Voulez-vous quand vous entendez ça? Je veux dire, moi j'ai montré dans mes travaux qu'en 1930, la France c'est le pays du monde où le taux d'immigration est parmi les plus élevés au monde, plus que les États-Unis. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Les Français ne faisaient plus d'enfants. Je veux dire, il y a une crise démographique. Certaines années, il y avait déjà plus de morts que de naissances en France au début du XXe siècle. Ensuite, il y a la Première Guerre mondiale, l'hécatombe. Donc la France, elle est exempte d'un point de vue démographique. Donc, l'économie est à plat. On va chercher des travailleurs immigrés. On oublie toujours cet aspect-là, mais c'est une dimension fondamentale. La France s'est à chaque fois redressée et développée grâce à l'apport de ces immigrants.
À l'apport des Polonais, des Italiens, oui, des Espagnols,
et puis après,
des Portugais, puis ensuite des Maghrébins.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Oui, à chaque fois qu'on a eu une crise de la natalité et une demande économique forte ou une relance nécessaire, on a fait appel à des immigrés.
Voilà, c'est
dans l'histoire de France.
Dans l'histoire de France, c'est à chaque fois, enfin depuis le 19e siècle.
Oui, depuis le 19e siècle.
Et c'est comme ça, je dirais, après, vous avez ces gens-là, certains, et c'est jamais dans le sens unique non plus, l'immigration. Il y en a qui repartent, il y en a qui restent, enfin, c'est très compliqué. Mais il y a aussi le processus qu'on appelle l'intégration, hein, qui s'est produit à toutes les époques.
Oui, mais quand Zemmour dit, pourquoi est-on contrôlé 17 fois lorsqu'on est noir ou arabe? Parce que la plupart des trafiquants sont noirs ou arabes. Une logique.
Quand on définit les gens par leur couleur de peau, effectivement.
Oui.
Si on les définit par leur classe sociale, on raisonne tout à fait autrement.
Oui.
Parce que, justement, si vous voulez, ces gens-là appartiennent en grande majorité aux classes populaires et dans la fraction, je dirais, la plus démunie des classes populaires. Et c'est en général dans ces milieux-là qu'il y a cette forme de délinquance par rapport à la police. Mais vous savez, moi j'ai trouvé le même genre de raisonnement à la fin du 19e siècle à propos des Italiens. Exactement pareil. Où on disait, regardez, nous sommes envahis, nous sommes menacés par ces immigrés italiens. Faut pas oublier qu'en 1894, c'est un anarchiste italien qui a assassiné le président de la République française.
Hein? Oui,
donc, je veux dire...
Donc,
vous avez... sans minimiser... Après, il y a des problèmes qui se posent aujourd'hui. Il y a des gens qui utilisent l'islam. Enfin, tous les attentats terroristes, c'est des réalités. Le problème, c'est d'en faire une généralisation politique. Vous voyez, d'en construire tout un point politique à partir de là.
Oui, mais il est nourri dans son discours par... l'autre extrême.
Voilà.
Par l'autre extrême, ceux qui pensent que les Blancs sont tous esclavagistes et qui ce sont tous des racistes.
Voilà. Donc il y a...
À l'extrême gauche, il existe aussi
ce discours-là. Mais si vous voulez, l'impact médiatique entre les deux camps, il n'est pas du tout le même. Hein.
Oui.
Bon, mais ceci dit, c'est vrai. C'est pour ça que, avec mon collègue sociologue Stéphane Beau, nous avons publié l'an dernier un livre qui s'appelle « Race et sciences sociales » où on a aussi fait la critique de ces types d'investissements financiers finalement, qui retourne les logiques oui. identitaires en dénonçant le privilège blanc, etc. La recherche historique, vous voyez, scientifique, c'est une distance par rapport au discours politique oui. ou médiatique, de façon à analyser les choses avec les arguments, les outils qu'on peut avoir, nous, dans notre discipline. Ce qui nous fait souvent en porte-à-faux des deux côtés, vous voyez. On peut recevoir comme ça des invectives avec les réseaux sociaux, des deux côtés, quand on veut maintenir l'autonomie de notre métier.
Abolir les lois mémorielles. Il veut abolir oui. les lois.
Alors, même la loi de 72 contre ouais. le racisme.
Contre le racisme.
L'a dit, oui.
À quoi servent les lois mémorielles, Gérard Morel ?
Les lois mémorielles, alors là, c'est un vaste débat.
Ah oui,
j'ai engagé
sais.
Là-dedans en 2005.
Je sais. C'est pour ça que je vous pose la question.
Voilà, ouais. ces lois. Ouais. Les lois mémorielles, ça c'est pour moi, les lois mémorielles, un historien il n'a rien de spécifique à dire là-dessus, c'est de la vie politique. C'est-à-dire oui. une nation, elle veut honorer, vous voyez, tel ou tel aspect de sa mémoire. En tant que citoyen, je peux dire évidemment mon mot, mais à partir du moment où ces lois-là n'entravent pas ma recherche historique, évidemment,
oui.
Si ces lois privent notre liberté de penser, là, elles sont condamnables. Mais dans la mesure, autrement, voilà, au demeurant, c'est un choix. On sait qu'on est dans des logiques aujourd'hui où la mémoire joue un rôle de plus en plus important, suscite des polémiques de plus en plus importantes. Nous-mêmes, d'ailleurs, ça nous pose un problème, parce que pour moi, l'histoire et la mémoire, c'est pas la même chose, vous voyez.
Oui.
Donc voilà, on peut aussi critiquer les logiques mémorielles quand on fait de la recherche historique. Mais voilà, c'est un champ complexe qu'il faut déconstruire, je dirais. Il n'y a pas de réponse unique là-dessus. Ce qui m'inquiète plus, c'est effectivement son projet d'abolir la loi de 72 sur le racisme. Parce qu'on comprend du
réprimant
coup...
Réprimant les injures racistes.
Voilà, on comprend du coup pourquoi il valorise Pétain. Parce que Pétain a fait ça avec la première loi. Vous savez, c'est le décret oui. loi Marchandeau oui. de 1939. Eh bien...
Sur le chemin de Pétain.
Sur le chemin. C'est un chemin de la répression, de contestation des pratiques démocratiques, de dénigrement de tous les gens qui peuvent faire de la recherche ou qui peuvent, voyez, avoir une vision comme ça ouverte. Donc on est, oui, sur un registre, mais adapté à notre époque. Hein, une époque qui est plus pacifique que ce qu'ont connu nos parents, nos grands-parents.
Oui, parce qu'on parle beaucoup de violence aujourd'hui, mais enfin, la violence dans les années 30 était autre.
Mais si vous voulez, gens qui ont plus de 60 ans aujourd'hui, c'est la première génération qui n'a jamais connu la guerre.
Oui. Hein? Oui.
Nous en faisons partie.
Oui.
Parce que toutes les générations avant, même quand on remonte quasiment jusqu'au Moyen-Âge, avaient vécu soit des révolutions, soit des guerres.
Oui.
Donc on vit globalement dans un monde beaucoup plus pacifique.
Apaisé.
Ce qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir de la délinquance,
évidemment.
Etc. Mais c'est plus
évidemment.
Le même type de violence.
Évidemment. Hein. Gérard Noiriel, Marine Le Pen a présenté hier soir à la télévision son idée de grand référendum sur l'immigration. Mais ça peut servir à quoi un référendum sur l'immigration?
Un référendum sur l'immigration, ça peut être, si vous voulez, c'est dangereux, parce que ça peut être manipulé, je dirais, à des fins où, si vous répétez tous les jours que les problèmes que rencontrent les Français, les souffrances qu'ils vivent, qui sont réelles souvent, bien, s'expliquent par l'étranger, par l'immigré, etc., vous pouvez aboutir effectivement à ce que des référendums donnent une majorité pour se focaliser là-dessus. Donc c'est... Je pense que c'est un calcul électoral. Mais sur le fond, politiquement, je crois que c'est complètement vide, je dirais. Vous voyez, donc c'est...
Voilà. Est-ce que la France est le pays d'Europe où le nombre d'immigrés comparé à la population est le plus fort?
Ça, je pourrais pas vous dire aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, les taux d'immigration sont beaucoup plus faibles aujourd'hui qu'ils ne l'étaient dans les années 20.
Les taux d'immigration sont plus faibles.
Ou dans les années 60. Je veux dire, ce que j'ai aussi montré dans mes travaux, c'est que dans les périodes où on a besoin des immigrés, on n'en parle pas. Mais c'est dans ces périodes-là où l'immigration augmente le plus, le nombre.
Après,
il y a une stabilisation. Alors, tout le débat porte autour du droit d'asile, par exemple.
D'ailleurs, l'Allemagne a eu besoin des immigrés.
Oui.
Et on n'a pas parlé d'immigration pendant la campagne électorale allemande.
Ça, c'est un point sur lequel il faudrait réfléchir, hein, sur la comparaison de nos démocraties. Là, je laisse le soin aux spécialistes et aux professionnels de la politique. Comment se fait-il qu'en France, on puisse arriver à des dérives comme ça par rapport au champ politique, où on a comme ça des aventuriers comme Zemmour qui sont... potentiellement candidat à la fonction suprême. Je ne pense pas qu'en Allemagne, on pourrait voir ça. Et on voit que des sujets comme la question de l'immigration, qui a été un moment aussi porté par l'extrême droite en Allemagne, oui, aujourd'hui sont dégonflés. Donc, est-ce que ce n'est pas le système politique français, présidentialiste, comme on dit, qui génère ce genre de choses? C'est la question reste posée. Mais en tout cas, oui, il y a là un problème, je pense, du fonctionnement de nos institutions démocratiques et des liens entre les médias et le monde politique en France aujourd'hui. Oui.
Merci Gérard Noriel d'être venu nous voir ce matin. Ça passe vite, c'est passionnant. Il est 8h53, vous êtes sur RMC et BFM TV.